Prions. Nous te sommes reconnaissants, Éternel notre Dieu, pour ta grâce qui continue à abonder dans la vie de chacun de nous. Nous voulons écouter de ta part à travers l'instrument que tu as prévu. Tu l'as préparé, tu l'as outillé. Nous voulons, Seigneur, que tu parles au cœur de chacun et que nous ne puissions pas rentrer comme nous sommes venus. Pendant ce moment, nous demandons, Seigneur, que ton esprit soit au contrôle de tout et que ta grâce et ta gloire se manifestent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je suis très heureux de me tenir devant vous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais dire merci à notre cher papa, notre révérend, le leader de cette communauté qui a bien voulu nous donner la main d'association pour qu'ensemble ce matin, nous puissions servir ensemble notre Dieu dans le cadre de cette célébration. Et je voudrais saluer tout le comité de cette église et chacun de vous, vous transmettre les salutations de mon église, le Centre Université Apostolique, et de ma famille, mon épouse et les enfants. Nous avons prié un temps pour vous pendant qu'on préparait ce voyage. Et je suis convaincu que, autant que nous sommes ici ce matin, Dieu nous connaît et il a un message pour notre âme. Ce message, sa parole est une nourriture pour nos âmes. Et toutes les fois que nous nous rassemblons en sa présence, il a une nourriture pour nous. Et je voudrais vous inviter à disposer vos cœurs, à ouvrir vos entendements pour que notre Dieu puisse nous parler et que cette parole produise des fruits dans notre vie, dans notre marche avec lui. Je voudrais lire dans la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 18, versets 1 à 7. Et puis je lirai un autre texte dans 2 Chroniques. Lisons 2 Rois chapitre 18, versets 1 à 7. La troisième année d'Osée, fils de la roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'y en a eu point semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fit plus assujetti. Le second test que je vous propose ce matin, c'est 2 Chroniques, chapitre 29. On va juste lire deux versets, versets 10 à 11. En effet, c'est la même histoire. Je voudrais juste lire une précision que le test de Chronique nous donne en complément à celui de deux rois. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 10 et 11. C'est Ézéchias qui parle. Il dit, « J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir en son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Amen. Je voudrais parler ce matin des réformes de la réussite du roi Ézéchias. Quand il devient roi, c'est après son père. La Bible nous dit que son père était Akaz. Akaz n'a pas été un bon roi. Et vous savez, dans la succession des rois en Israël, pendant que le royaume était divisé en deux, il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Quand vous lisez les textes des rois et des chroniques, vous allez voir que à chaque fois, le récit nous précise s'il s'agissait d'un bon roi ou d'un mauvais roi. D'un roi qui a marché suivant les instructions de Dieu ou un autre qui a marché contrairement aux prescriptions divines. Et ici, nous sommes en train de parler d'Ézéchias, dont le père est Akaz et qui a pris le pouvoir après la mort donc de son père. Le témoignage qu'a reçu son père à la fin de son règne est négatif. Il n'était pas donc un bon père, un bon roi, je voudrais dire. Ézéchias, le roi, le nouveau roi, a fait des réformes. Il a pris des décisions importantes au début de son règne. Et à la fin de son règne, nous avons un témoignage positif. L'expression qui dit « tel père, tel fils » n'est pas appliquée à Ézéchias. Parce qu'il a été très différent de son père dans la gestion des affaires du royaume et dans son rapport avec Dieu. C'est pour ça que j'utilise le mot « réforme ». Il a initié un certain nombre de changements profonds dans la vie de l'Église, dans la vie du royaume, je voudrais dire. Et ce royaume a connu un succès, a été libéré de ses oppresseurs, les Assyriens, parce que le roi Ézéchias a courageusement conduit des réformes. Entre lui et son père Akaz, c'était comme le jour et la nuit. Mais vous savez, son grand-père, Jotham, était lui un bon roi. Donc nous avons trois rois. Le premier, Jotham, était un bon roi. Son fils Akaz était un mauvais. Et le petit-fils Ézéchias, dont nous parlons aujourd'hui, était un bon. Ézéchias a hérité d'un royaume ruiné, d'un royaume maudit et rempli d'idoles. Après donc les 25 ans, et alors qu'il avait 25 ans à la mort de son père, imaginez un peu le contexte, un jeune de 25 ans qui prend les rênes d'un royaume, un très grand royaume, mais dirigé par son père qui a conduit le royaume vers l'idolâtrie, vers la désobéissance à Dieu, vers le péché et vers l'adoration des idoles de tout genre. Et son père a été frappé par une maladie qui était comme un jugement de Dieu pour son péché. Il va donc prendre des décisions très importantes que je voudrais inviter chacun de nous ici ce matin à considérer. C'est vrai, nous ne sommes pas au temps d'Ézéchias et nous ne sommes pas au temps de nos aïeux. Nous sommes en 2022. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous sommes en relation directement avec Jésus-Christ. Et c'est de cette relation que nous devons faire des réformes pour nous assurer que la vie que nous menons, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons font avancer notre relation avec Dieu ou nous éloignent de lui ou nous met en conflit avec lui. Quand nous avons lu 2 Chroniques chapitre 29, le verset 10 dit « J'ai donc l'intention » de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici un jeune de 25 ans qui choisit, pendant qu'il arrive aux affaires, de faire alliance avec l'Éternel, pendant que son père s'est détourné de l'Éternel. Il dit, je vais faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Les actes qu'ont posés ses prédécesseurs, notamment son père, ont conduit le peuple dans des souffrances, dans l'esclavage, même s'ils étaient sur la terre. Ils étaient assujettis par le roi d'Assyrie. Et voici la décision que prend Ézéchias. Une décision salutaire, qui est le résumé de ces réformes. Faire alliance avec Dieu. Oui, nous pouvons venir à l'église, nous pouvons être présents dans les services, dans les cultes, sans vraiment être en alliance avec Dieu, sans vraiment être en accord, en harmonie avec Dieu. Et c'est à ça que je voudrais nous inviter ce matin. Quels sont ses secrets? Comment il a fait les réformes profondes qu'il a conduites à la tête du peuple d'Israël pour recevoir ce bon témoignage? Premièrement, la Bible nous dit qu'il fit venir les sacrificateurs et les lévites et leur recommanda ce qu'ils devraient faire. Parce que pendant le règne de son père, il n'y avait plus de service. Il n'y avait plus d'adoration du vrai Dieu. Les personnes qui étaient choisies, oint par Dieu, pour conduire le sacrifice, pour conduire les cérémonies ou bien l'adoration de Dieu dans le temple, étaient au chômage. On les a tous renvoyés à la maison. Ce n'est plus nécessaire de faire ces choses. Et tous ces lévites et sacrificateurs, Ézéchias les a ramenés. Il les a ramenés à leur place. Il dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de Dieu. Nous allons reprendre ce qui est prescrit dans les textes par Moïse. Il exhorta le peuple à la fidélité. Voilà le deuxième acte important qu'il a posé. Dans son discours, il invitait le peuple à la fidélité. Il offrit des sacrifices à l'Éternel. Il appela le peuple à la louange de l'Éternel avec des instruments de musique. Voici un roi qui appelle le peuple de Dieu à revenir aux valeurs, à revenir aux attitudes qui fondent notre foi, notre relation avec Dieu. Et il offrit aussi des sacrifices d'action de grâce. Il a restauré la Pâque. Vous savez, la Pâque a une place centrale dans la vie du peuple d'Israël, mais c'était abandonné au temps d'Akaz. Mais Ézéchias a fait la réforme. Il dit, nous devons restaurer la Pâque et commencer par le faire à nouveau. Il réorganisa le service du temple, selon 2 Chroniques chapitre 31. Vous allez voir que c'est le roi qui a remis de l'ordre dans le service qui devrait se faire dans le temple. Ces réformes ont produit des résultats spectaculaires. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. Et le verset 7 de 2 Rois 18 que nous avons lu ce matin dit, il réussit dans toutes ses entreprises. Nous sommes nombreux à vouloir réussir dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos relations, dans tout ce qui nous concerne. Nous aspirons à la réussite, au succès, à l'élévation, à la grandeur. Mais il faut des réformes. Il faut des décisions courageuses. Il faut la repentance parce que la réforme, c'est changer les choses. La repentance, c'est faire demi-tour. C'est changer de direction, c'est changer de cap, c'est revenir sur le bon chemin après un temps d'égarement. La Bible nous dit aussi qu'il y eut beaucoup de succès dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les infrastructures, l'industrie. C'est un roi qui avait beaucoup de succès dans les affaires, selon 2 Chroniques chapitre 32, verset 27. Il conduisit l'eau en ville, Dieu lui donna des biens considérables. Dieu lui donna des biens considérables. Ézéchias, à cause des réformes qu'il a faites, ce que je vais appeler des décisions courageuses, de changer les choses, ce que son père faisait. Et ça me fait penser à Josué, qui s'adressait au peuple à la fin de sa vie. Il dit, nos pères, de l'autre côté du Jourdain, servaient les dieux de ce monde, servaient les idoles. Ils servaient la nature, les choses de ce monde. Nos dieux de l'autre côté du Jourdain. Mais Dieu a pris notre ancêtre Abraham et il lui a dit, suis-moi, sers-moi. Et aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous choisissez qui vous voulez servir. Parce qu'il y avait de mélange dans le peuple à la fin du leadership de Moïse. Il disait, mais je veux que ce soit clair. Est-ce que vous pouvez servir l'Éternel? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous choisissez qui vous voulez servir. Et Ézéchias n'a pas suivi la voie d'égarement de son père. Il dit, nos pères ont fait des choses. Ils ont servi des idoles. Et je viens du Bénin. Et ce pays qui est connu comme le pays du vaudou, des idoles. Mais nos pères ont servi des choses. Ils ont adoré le bois. Ils ont adoré le fer. Ils ont adoré l'eau. Ils ont adoré l'air. Mais nous, nous avons choisi d'adorer Dieu, le Dieu vrai et vivant. Et ces réformes sont nécessaires. Ézéchias les a fait. Il remporta la victoire sur des puissants ennemis. C'est le dernier résultat de ces réformes. Si vous lisez son histoire, vous allez voir qu'avec lui, la tendance a été renversée. L'Assyrie ne dominait plus sur Israël, mais Israël a eu le succès. Chers frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon de la vie de Ézéchias, de ses réformes, de ses choix courageux? Dieu ne nous a pas appelés pour que nous menions une vie chrétienne médiocre. Non. Dieu ne nous appelle pas pour que nous soyons là pour être là. Jésus nous donne la vie et la vie en abondance. Il veut que nous menions une vie de victoire sur tout obstacle, sur les ennemis, sur les adversaires, sur les tempêtes qui peuvent se lever contre nous, sur les difficultés de tout genre. Mais, sachons-le, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite si nous ne nous levons pas courageusement contre certaines choses, notamment contre le péché, qui nous empêche de voir et d'avoir des bénédictions que Dieu a promises aux rachetés que nous sommes. Ésaïe l'a dit, ce ne sont pas la main de Dieu qui écoute ou ses oreilles qui sont fermées, mais ce sont vos péchés qui sont comme un fossé entre lui et vous. Le roi Akaz a régné et son règne a été maudit par Dieu parce qu'il a conduit le péché et le peuple dans le péché. Mais son fils, quand il a vu cela, quand il est venu au pouvoir, il a fait le contraire. Il a fait des réformes. Il s'est repenti. Il a conduit le peuple dans la repentance. Nous irons tous à son école ce matin. Nous ferons comme lui. Je vous invite à faire comme lui. Chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans vos affaires, dans vos entreprises, ne vous y trompez pas. Dieu nous appelle d'abord à faire des réformes, à nous tourner vers lui totalement, à nous dédier à lui, à vivre pour lui, pour que ses bénédictions puissent couler à fond dans notre vie. Il n'y aura pas de... Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas... Non, la relation chrétienne, la relation de Dieu, la relation avec Dieu, la vie chrétienne, ça commence d'abord par des changements que vous opérez courageusement. Et je vais vous conduire dans des exemples ou des domaines dans lesquels je pense que nous devons faire des réformes. Chers frères et sœurs, nous devons faire des réformes dans notre communion avec Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Il te faut une consécration qui va t'amener à te débarrasser des ordures morales, des ordures de ce monde, de tout ce que ce monde nous propose aujourd'hui, de tout ce que ce monde nous propose aujourd'hui comme gloire, comme fierté, comme élévation, et qui sont contraires à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons nous débarrasser des littératures malsaines, des musiques malsaines, des films malsains. Et certains doivent supprimer des choses ou abandonner des habitudes. C'est des réformes que nous devons faire dans notre vie. Tout ce qui est mœurs légères, tout ce qui est comportement déplacé, non conforme à notre vie chrétienne, à la parole de Dieu, qui nous invite à une vie de sagesse, de sobriété, de pureté. Dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, nous devons faire des réformes sincères, parfois catégoriques. Sinon, nous serons justes avec Dieu comme par formalité. Et quand ce n'est pas formalité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de résultat. Ne devrions-nous pas faire des réformes aussi dans notre manière d'apporter des ressources à l'œuvre de Dieu? Nous parlons des dîmes et des offrandes et toutes sortes de ressources que nous devons apporter. Parce que quand je parlais d'Ézéchias, rappelez-vous, il a offert des sacrifices à Dieu. Il a ramené les sacrificateurs et ils ont offert des sacrifices à Dieu. Ils ont apporté de la louange et de l'adoration à Dieu. Qu'est-ce que toi tu apportes à Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous sommes seulement en train de demander à Dieu de nous faire des choses alors que nous, on ne lui fait pas grand-chose? Dieu n'a pas besoin que nous le fassions quelque chose. Il s'autosuffit, il est tout puissant. Mais c'est une grâce pour nous de mettre nos ressources dans son œuvre. Est-ce que tu n'as pas des réformes à faire dans ce niveau aussi? Pour qu'il y ait moins d'avarisme, moins d'égoïsme, moins d'égocentrisme.
Ces choses qui nous dominent aujourd'hui et qui nous font regarder toujours à nous-mêmes, à nos besoins, à nos priorités. Et à mettre les priorités de Dieu après que nous sommes suffisamment satisfaits pour nos propres besoins. Ézéchias, il ne s'est pas construit une belle vie avec les ressources quand il est venu au pouvoir. Il a organisé tout pour que tout aille vers Dieu. Soyons plus sérieux dans notre manière d'apporter les ressources et soyons fidèles dans la dîme et dans les offrandes. Je pense aussi à une réforme qui peut concerner les mariés qui sont ici. Peut-être qu'il y a des grandes réformes à faire dans notre relation avec nos conjoints, dans ta relation avec ton épouse. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu dois corriger? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger dans ta relation avec ton mari? Oui, parfois nous n'en parlons pas suffisamment. Mais c'est la première église. C'est le témoignage premier de notre nouvelle naissance. C'est la qualité de notre vie de couple. Pour ceux qui sont mariés ici ce matin, je vous invite à faire un examen, à faire un bilan, pour voir si vous n'avez pas des choses à corriger. Parce que vous savez, nos prières peuvent rester sans exaucement, simplement parce que nous sommes en conflit dans nos couples. Là où deux s'accordent en mon nom, je suis avec eux. Et vous êtes mari et femme, et vous ne pouvez pas vous accorder, parce qu'il y a du sable dans votre relation. Il y a du grain, ça ne passe plus bien. Vous êtes juste là pour sauver la face, pour qu'on ne dise pas qu'ils se sont laissés. Mais peut-être que des réformes sont nécessaires. Quelqu'un doit changer quelque chose. Une personne, un mari, une femme, une épouse doit prendre une décision pour dire « je vais faire quelque chose pour changer les choses ». Je pense aussi que nous avons tous besoin de faire des réformes, des changements dans notre manière, dans notre relation envers nos bergers, envers nos dirigeants. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme et ils devront en rendre compte. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne nous serait d'aucun avantage. Hébreux chapitre 13, verset 17. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite, nous, à nous soumettre à nos conducteurs. Alors, une question pour toi. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec tes conducteurs, avec tes dirigeants religieux, avec tes responsables? Lorsqu'Ézéchias a compris l'importance des sacrificateurs et des lévites dans le peuple, il les a fait appel. Il dit, chers sacrificateurs, revenez. Vous les lévites, revenez. Sanctifiez-vous. Remettez-vous au travail. Prenez votre place dans le peuple. Ils avaient pour rôle de conduire le peuple dans l'adoration du vrai Dieu. Son père les a renvoyés, mais lui, il les a honorés. Il les a dit, reprenez service. Quel honneur et quelle place nous donnons aujourd'hui à ceux qui nous conduisent, à ceux qui ont tout abandonné pour servir l'Église. Je pense que nous avons aussi des changements à opérer dans notre zèle pour l'œuvre de Dieu. Nous servons Dieu, vous le servez. Et quand je suis venu ici, j'ai vu comment vous le faites. Malgré le temps que vous traversez, où vous devez faire le culte dans un contexte différent, tout le monde s'est mobilisé pour que ce soit possible. Chacun a joué son rôle. C'est extraordinaire. Mais et le zèle, cette ferveur, cette ardeur pour le service de Dieu, pour la cause de Dieu. Quel est le degré aujourd'hui pour toi? Je n'en sais rien. Moi, je suis un étranger. Et comprenez-moi, je n'indesse personne. La parole de Dieu s'adresse à moi d'abord et à vous, à nous tous. Quelle réforme dois-je faire dans le zèle que j'ai pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un découragement quelque part? Est-ce que quelqu'un n'est pas en train d'abandonner son poste, sa mission, à cause des difficultés, à cause des incompréhensions parfois? L'œuvre de Dieu est parfois difficile. Et nous choisissons très facilement la négligence, le laisser aller, la tiédeur, le refroidissement. Je vous invite ce matin à faire aussi des réformes à ce niveau. Chaque jeune ici doit être enflammé pour le Seigneur. Chaque jeune fille ici doit être enflammée pour le Seigneur. Chaque famille doit se mobiliser pour le Seigneur avec un zèle vivant, un zèle pour la maison de Dieu. Comme l'a dit Jésus, le zèle de ta maison me dévore.
Chers frères et sœurs,
puissions-nous être encore plus enflammés, plus engagés pour le Seigneur, comme Ézéchias l'a fait. Et je vais terminer sur une dernière réforme que je vous propose en commentant ce texte d'Ézéchias. Une réforme doit être menée dans notre vie de prière. Aujourd'hui, on est distrait par beaucoup de choses. Et nos vies de prière sont parfois juste de la routine, juste de formalité. Je ne sais pas trop pour vous, mais je viens d'un contexte où c'est ce qui est vraiment observé. Ta vie de prière est-elle irrégulière ou régulière? As-tu vraiment le temps d'être avec Dieu? Prends-tu vraiment le temps de te consacrer à lui des heures en sa présence pour qu'il te remplisse? Est-ce que tes prières, c'est seulement pour lui dérouler une liste de doléances ou c'est d'abord pour grandir avec lui, pour être chargé, rempli de lui, de sa présence? Dieu est disposé à nous bénir, à nous faire du bien. Mais il nous attend aussi sur le chemin de la repentance, du changement, des réformes. Chacun ce matin sait à quel niveau il doit faire des efforts. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas d'activité prière. Mais je veux vous inviter à avoir une vie de prière. Une communion suffisante avec Dieu qui est entretenue par une vie de prière. Pour que Dieu nous remplisse. Pour que sa présence soit effective. Et qui nous conduisent dans toutes ces réformes que nous devons faire dans tous les domaines dont je n'ai même pas parlé. Et je sais que chacun ici peut ajouter les domaines de sa vie dans lesquels il a besoin de changer quelque chose, de prendre une décision. Ézéchias l'a fait avant nous et il a eu les résultats que la Bible a racontés. Et à partir de ces résultats, nous pouvons dire que si nous le faisons aussi, si un jeune ici, si une famille, si un leader ici prend une décision, les résultats seront aussi glorieux et même plus. Parce que notre Dieu, il est au milieu de nous. Il est présent. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à faire des réformes, à changer des choses. Dans nos relations avec les frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des petits conflits ou des incompréhensions ou des frustrations? Nous avons parfois besoin d'être sincères. Et d'être ouvert, et d'être humble, et de demander à l'autre de nous pardonner, de nous accepter, de travailler ensemble, de ne pas reculer, mais d'avancer ensemble. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et vous inviter à la prière. Si nous pouvons prier ensemble et demander à Dieu de nous donner la force de faire les changements qui sont nécessaires pour que nous puissions lui plaire davantage, pour que nous puissions lui plaire encore plus, chaque jour. Père éternel, ce matin, ta parole nous est parvenue. Je voudrais prier que ce soit sur des terres fertiles, pour qu'elles germent et portent des fruits dignes, des fruits qui sont visibles, qui sont palpables. Qu'elle reste dans nos cœurs et que nous puissions méditer sur elle. Éternel, je prie pour ton Église, rassemblée en ce lieu. Je prie pour que tu nous donnes la force de faire ces réformes, de prendre de nouvelles décisions qui sont conformes à ce que tu attends de nous. Je prie que tu aides chaque personne ici à faire un vrai bilan de sa relation avec toi et à décider précisément là où il doit faire des changements pour grandir encore plus dans ta relation, dans ton amour et dans ta connaissance. Bénis cette église, Seigneur. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin pour continuer à être sel et lumière dans cette ville. Donne-leur des leaders, des acteurs, des ouvriers. Donne-leur, Seigneur, ton esprit et ta force. Pour que jamais cette flamme ne s'éteigne dans cette ville et que ton étendard reste élevé. Bénis-les, Seigneur.
Bénis-nous encore pendant que nous continuons ce culte dans ta présence. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons prié. Amen.